cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe le 19 janvier 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
Éthique chrétienne, que nous avons commencé la dernière fois, et il y a des questions. Pour nous aider à mieux voir ce qui est le propre de l'éthique chrétienne, pouvez-vous nous montrer un peu plus explicitement ce qui est la théologie morale? Oui, c'est une distinction qui est venue du XVIIe siècle. On a distingué les parties théologie dogmatique, théologie morale, vous voyez. C'est faux, puisque toute la théologie est pratique, et toute la théologie est contemplative. Toute la théologie est sagesse, toute la théologie est anthropologique. C'est évident, c'est le prof de la connaissance de foi. Alors diviser comme ça, c'est une division qui est tout à fait fallacieuse, et qui ne survient, et on l'apprend tout le temps, on continue d'apprendre, théologie morale, théologie dogmatique. C'est la théologie qui regarde le point de vue moral. Vous voyez, ça, on prend à partir de la matière. Or, le nom d'une science ne se prend jamais de la matière, mais de la manière dont on le regarde, l'objet formel. L'objet formel de la théologie est toujours le même. Mais évidemment, la théologie regarde l'homme vers la béatitude, c'est l'homme vers la béatitude, la théologie morale. C'est l'homme qui lutte contre ses passions pour acquérir des vertus et être docile à la grâce. C'est l'homme qui se sert des vertus théologales pour voir ce qu'est sa vie contemplative. Des dons du Saint-Esprit pour être docile à l'Esprit-Saint. C'est ça la théologie morale. C'est la théologie tout court par rapport à l'homme. C'est dans saint Thomas la secunda prima et secunda secundae. Puisque la secunda, la seconde partie de la théologie, la première partie de la théologie, regarde Dieu, ce qu'on peut dire de Dieu, le Créateur et la Très Sainte Trinité. La seconde partie de la théologie regarde l'homme vers Dieu, le cheminement de l'homme vers Dieu. Là, c'est la théologie morale. Remarquez, l'éthique, c'est le cheminement de l'homme vers Dieu, vers l'amitié, les deux fins, la fin contemplative, la fin humaine de l'amitié et la fin surnaturelle, le Christ. Vous avez trois éthiques. Trois éthiques, c'est-à-dire trois niveaux de l'éthique. Trois niveaux de notre cheminement vers notre béatitude. Et le cheminement de notre béatitude, nous l'étudions en éthique chrétienne. En voyant tout le temps ce que la foi nous montre, nous indique au point de vue de la finalité, nous avons une nouvelle finalité en tant que chrétien. Et c'est le Christ qui nous la donne. C'est d'être fils bien-aimé du Père. Notre finalité, c'est ça. Hein ? Donc, en éthique chrétienne, c'est regarder comment réaliser cette finalité et comment cette finalité est un levain merveilleux, qui soulève cette pâte non moins merveilleuse, qui est la pâte humaine. Et la pâte humaine doublée de l'héritage de notre grand-père, Adam, pécheur. Il nous a légué un bel héritage, péché originel. Et nous regardons cet héritage parce qu'il est intérieur, nous l'avons tous là. C'est un œcuménisme par le bas. Hein ? Nous avons l'avantage lorsque nous avons devant nous un protestant dit « Ah oui, comme toi, j'ai le péché originel. » Donc nous pouvons lutter ensemble. Quand vous avez quelqu'un qui n'est pas croyant, il a de la peine à comprendre. Mais il y a quelque chose de très profond en commun. Il n'y a pas seulement notre nature humaine, mais on est pécheur. Donc on comprend bien. On a les mêmes luttes. Je comprends très bien. C'est l'avantage du péché originel. Ça vous donne une communion profonde avec tous les non-chrétiens. Je dis, je comprends. C'est à cause du péché originel que tu n'es pas chrétien. Tu ne le sais pas, mais c'est à cause de ça. Alors on a un dialogue possible. Alors vous voyez, la théologie morale est sous la lumière de la foi. L'éthique chrétienne, c'est voir ce que l'apport chrétien transforme la pâte humaine. Alors, la première chose qui distingue tout de suite, c'est de voir la fin nouvelle. Et puis, voir ensuite la question du péché. J'aurais pu commencer l'éthique chrétienne en montrant ce que l'éthique chrétienne jette immédiatement comme lumière sur la pâte humaine. Je vois que notre nature humaine naît dans le péché. C'est l'éthique chrétienne qui me fait comprendre ça. Nous sommes nés dans le péché. Le psaume 50, on pourrait dire, c'est la première chose, parce que c'est à cause matérielle. Alors je prends du côté de la finalité, parce que c'est d'ordre pratique. Alors je prends la finalité en premier lieu. Mais cette finalité doit me donner une lumière sur la causalité matérielle, la pâte humaine. Vous voyez, c'est les deux pôles de l'éthique chrétienne. La finalité chrétienne et puis la pâte humaine. Nous ne sommes pas seulement des hommes, mais nous sommes des hommes pécheurs qui avons comme héritage de notre grand-père un héritage lourd, des dettes lourdes. Ces dettes ont été payées par le Christ. Ces dettes ont été payées par le Christ. C'est beaucoup, ça. Grâce à notre foi, nous savons que ces dettes ont été payées par le Christ. Mais il y a des petits restes de ces dettes qui sont de l'autre conséquence. C'est la pâte humaine égrévée de ce poids énorme vers le sensible. Nous sommes des êtres humains déséquilibrés. Nous sommes tous déséquilibrés. Ça, l'éthique chrétienne vous le dit. Alors, il y a des gens qui s'unissent par la finalité, il y a des gens qui s'unissent par leur malheur. Alors, on est unis au pauvre type qui ne croit pas par le malheur. On a de quoi comprendre le pécheur qui refuse de croire. L'éthique chrétienne n'est pas du tout une éthique qui nous met dans une sélection unique parce que le Christ nous a sauvés, nous regardons les autres comme des pauvres misérables. Pas du tout. Nous les regardons en sachant que leur misère, nous l'avons. Oui. Et c'est vrai que l'éthique chrétienne nous donne alors un regard extrêmement profond sur la nature humaine. Alors, j'espère que vous voyez mieux les différences entre... Mais c'est délicat. Hein. L'éthique chrétienne, c'est pas commode comme statut. C'est un peu hybride. Hein. Parce que il faut la foi et je regarde les conséquences de la foi dans la race humaine. Par rapport à notre vie pratique de chrétien, quelle est la place de la connaissance philosophique, de l'éthique chrétienne, et la place de la connaissance de théologie morale? Votre vie est une vie chrétienne. Nous n'avons qu'une vie, vous savez, il y a un vieux cantique qui dit ça admirablement. Nous n'avons qu'une seule vie. Nous sommes des chrétiens. Je ne peux pas dire le matin, j'aurai ma vie humaine. Et ma vie humaine sera accompagnée de ma vie de pécheur. Et le soir, j'aurai ma vie chrétienne. Parce qu'après le repas de midi, je serai plus éveillé à être chrétien. Tandis que quand je sors du sommeil, je ne distingue plus très bien le pécheur et le chrétien. Je vois l'homme. Non, nous n'avons qu'une seule vie. Une vie chrétienne. Donc c'est ce qu'il faut se rappeler. Donc, une seule lumière, la foi. Donc, la théologie morale passe tout de suite. Si nous prenons l'éthique chrétienne, c'est pour pouvoir dialoguer avec plus d'intelligence avec l'homme. Dialoguer avec plus d'intelligence avec l'homme tout court. Le psychologue. C'est évident. Parce que le psychologue ne fait pas de distinction entre tout ce qui est naturel. Pour lui, les mauvaises les tendances, les conséquences du péché originel sont naturelles. Pour beaucoup de psychologues. Hein. La psychologie ne peut pas faire la distinction que le chrétien fait entre la nature humaine et les conséquences du péché. C'est fou, c'est de la foi, ça. Le philosophe ne peut pas faire ça. Et le psychologue ne peut pas faire la distinction. Mais le philosophe fait la distinction par la finalité, ce qu'il peut faire. Le psychologue n'a pas de finalité. Alors, il ne peut pas le faire. Alors, il bec dans l'eau. Il ne peut pas faire la distinction. Parce que les pulsions humaines, sont-elles humaines ou sont-elles des pulsions mauvaises? Les tendances que vous avez tous et que nous avons tous, du côté de la concupiscence, du côté de la sexualité, sont-elles du péché originel? Conséquences? Sont-elles naturelles? Vous voyez? L'éthique chrétienne doit faire ça. L'éthique chrétienne est extrêmement précieuse pour le dialogue avec les incroyants et pour le dialogue avec les croyants. C'est très important de pouvoir défendre ce que le pape nous dit, ce que l'Église nous dit au point de vue de l'éthique, au point de vue de la sexualité, au point de vue de la procréation, au point de vue de la famille. C'est capital. Je crois que si on ne voit pas l'éthique chrétienne avec beaucoup de précision, on ne peut jamais être quelqu'un qui peut conseiller vraiment l'éthique familiale, l'éthique conjugale. Et donc, l'importance de l'éthique chrétienne, c'est pour voir avec une très grande netteté ce que le ferment chrétien transforme dans la pâte humaine. Alors là, c'est très important. Alors, la théologie morale, tout chrétien qui réfléchit sur ce qu'il est, fait de la théologie morale. Évident. Mais tout chrétien ne fait pas de l'éthique chrétienne parce qu'il ne sait pas ce que c'est que l'éthique philosophique. Il n'a pas distingué très souvent la différence entre l'acte moral, volontaire, et l'acte d'homme, non volontaire, instinctif, passionnel. L'éthique chrétienne nous permet de distinguer dans une assemblée, même religieuse, ce qu'il peut y avoir de passionnel, ce que relève directement du chrétien, ce qui relève directement du moine. À ce moment-là, ce serait très intéressant d'étudier, vous voyez, les assemblées qui existent quand on fait des votes pour la vie religieuse, pour le sacerdoce, pour le diaconat. On rassemble. Et c'est toujours dans l'assemblée que les défauts, les passions se dévoilent. Quand il s'agit d'un point de vue personnel, si on est intelligent, on arrive à très fort cacher ses passions. Et on ne voit pas si c'est une décision humaine, vraiment humaine, c'est-à-dire relevant de l'intelligence, de la volonté en vue d'une finalité, et c'est une distinction passionnelle qui relève tout simplement, souvent, très souvent, de la jalousie. Le père de Haut me disait, quand on voit une division dans une communauté, cherchons les raisons du côté de la jalousie, on verra tout de suite que la jalousie est source terrible de division. Une jalousie latente, pas déclarée. Si elle était déclarée, elle est trop bête. Alors, on ne s'allierait pas à une jalousie trop... On ne serait pas partisan, mais des jalousies larvées, cachées, entraînent des partisans. Et très souvent, sont source de division. Et c'est très vrai, ça. C'est très vrai que la jalousie larvée qui se manifeste surtout dans la communauté. on est avec un autre. Pourquoi ? Pourquoi on va voter comme ça ? Parce qu'un tel a voté comme ça, on a très bien vu que c'est son opinion, et on est lié avec lui, passionnément. On ne cherche pas à repenser, parce que l'amitié n'enlève pas l'autonomie. La plupart du temps, l'amitié enlève l'autonomie, et ça se manifeste dans les groupes. Alors, voyez la place, c'est de vous rendre plus lucide dans votre vie chrétienne. Vous ne voyez pas le point de vue pratique immédiatement, mais il y a un point de vue pratique très, très profond. Vous avez dit que l'éthique chrétienne est d'abord un esprit, oui. C'est pour ça qu'il est d'abord une lumière, et que cela lui est propre. Peut-on dire que l'éthique religieuse demande de devenir un esprit ? Oui, moins immédiatement, puisqu'il y a la nature humaine. Alors, la nature humaine, ce n'est pas l'esprit. C'est l'esprit lié à la matière. L'éthique religieuse ne peut jamais se séparer du corps. Tandis que l'éthique chrétienne commence par un esprit, les béatitudes. C'est un esprit. Et Jésus donne cet esprit. L'éthique chrétienne, puisqu'elle nous fait tendre vers Dieu, est-elle une sagesse ? Non, parce qu'elle s'arrête à l'homme. L'éthique chrétienne ne me fait pas connaître Dieu. Vous comprenez ? Dieu est source extérieure. Mais c'est une éthique. Et dit éthique, c'est une anthropologie sous-jacente. C'est l'homme que j'étudie. C'est l'homme dans son activité humaine. Et dans son activité chrétienne. Donc c'est avant tout l'homme. Vous avez vu dans l'analyse de l'acte humain que la responsabilité est comme une conséquence du choix. Oui. Au niveau de l'éthique chrétienne, comment situer la responsabilité ? Puisque même dans le choix, il y a quelque chose qui nous dépasse dès le niveau des moyens. La responsabilité est ce qui dépend de nous, c'est sûr. Dans l'éthique chrétienne, on verra que nous sommes co-responsables avec l'Esprit Saint. Que nous œuvrons dans l'amitié avec Dieu. L'alliance chrétienne est une amitié et donc une coopération avec la grâce. Alors, les deux se lient. Et on ne peut pas les séparer d'un côté la grâce, de l'autre côté la nature, non. Il y a une unité profonde qui se fait entre les deux. Mais dans le péché, vous voyez, la grâce là n'opère pas. Vous êtes plus responsable dans le péché. Hein ? Est-ce qu'on a le droit de dire ça ? Vous êtes plus responsable dans le péché parce qu'il n'y a que vous. Que dans tout acte bon, vertueux, contemplatif, tendant vers votre béatitude, puisqu'il y a l'Esprit Saint et vous. Je pense ça parce qu'il s'agit de la responsabilité. Ça vous fait réfléchir. Le péché, vous êtes seule cause, pas le Saint-Esprit. Dites pas que c'est à cause de Dieu que vous avez péché. Non, non, c'est vous. Ah, il y a peut-être l'autre, hein. Il y a peut-être le petit copain, je sais pas si, ou la copine, hein, qui est responsable aussi. Et par derrière, le serpent, qui se cache bien derrière le copain, la copine. T'es sûr? Dans le péché, vous êtes seul responsable. Seul avec l'autre. Toujours. Vous ne péchez jamais tout seul. J'allais dire grâce à Dieu. Vous ne péchez jamais tout seul. L'ange se pêche seul. C'est pour ça que l'ange ne peut pas être pardonné comme l'homme est pardonné. Dieu se sert du péché pour que le pécheur aille plus loin. Le péché pardonné. Le péché dans le regard de la miséricorde de Dieu. Et alors, la responsabilité dans le péché est plus grande que dans un acte bon. Ou dans un acte bon, Dieu, par la grâce, a dit. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut répondre? Par la grâce, vous faites des activités qui ont une noblesse, une grandeur, une valeur beaucoup plus grande. Dans le péché, vous faites des actes toujours infra-humains. Un homme digne de ce nom ne peut pas coopérer avec cette colère, avec cette concupiscence. Tandis que dans l'action bonne, c'est toujours quelque chose qui nous ennoblit. Quelque chose de grand. Alors, la responsabilité, d'une certaine manière, est plus grande dans le péché, parce que ma quote-part est plus grande et principale que dans un acte bon, où l'auteur principal est toujours Dieu, toujours l'Esprit Saint. Mais comme avec l'Esprit Saint, je vais plus loin, ma responsabilité augmente parce que mon acte est plus important. Est plus important. Oui, on ne va pas répondre. Oui et non. On est obligé de distinguer. Et ceci répond à la question. La responsabilité existe dans ma vie chrétienne, dans l'éthique chrétienne, comme elle existe dans l'éthique humaine, comme dans l'éthique religieuse. Et plus mon activité est noble, plus mon activité est grande, plus ma responsabilité est grande et forte. Alors, je commence l'éthique chrétienne. C'est en premier lieu une étude philosophique des béatitudes. Ce n'est pas une étude des béatitudes au point de vue théologie morale, mais c'est une étude philosophique des béatitudes. Première béatitude, bienheureux les pauvres. Cela présuppose une vision de l'homme qui n'est pas matérialiste. Si pour moi, la seule grandeur de l'homme, c'est d'être opulent, d'être influent, d'être dominateur, la pauvreté est un handicap. Si pour moi, la vision de l'homme est avant tout une vision spirituelle, la pauvreté peut être un conditionnement merveilleux pour permettre le développement de l'intelligence du cœur. Vous voyez, il y a deux façons de regarder les béatitudes. Il y a une façon théologale. Les béatitudes, c'est ce qu'on fait ordinairement. En éthique chrétienne, je regarde les béatitudes en tant qu'elles transforment le cœur de l'homme. Et c'est vrai, ça. On voit bien, la béatitude des pauvres permet à l'homme de développer en lui ce qu'il a de plus spirituel.